C'est alors que la puissance du Christ et du christianisme se feront sentir comme elles ne l'ont jamais fait dans l'histoire du monde. Voyez ce que dit saint Paul. 1 Corinthiens 13, 1-2 « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Un grand nombre prie pour avoir la foi, ils demandent une foi extraordinaire, remarquable, et ils oublient que l'amour est plus excellent qu'elle. La charité dont parle ce chapitre, c'est l'amour, ce fruit de l'esprit qui est le grand et puissant principe de la vie divine. L'Église a besoin aujourd'hui de cet amour, de plus d'amour pour Dieu et pour les hommes. Mieux nous aimons Dieu et mieux aussi nous aimons nos frères, nul ne peut mettre cela en doute. Je pensais autrefois que j'aurais voulu vivre du temps des prophètes, que j'aurais aimé d'être un prophète, pour voir les gloires des cieux et les décrire aux autres. Mais la manière dont je comprends maintenant les Écritures me conduit à penser qu'il vaut beaucoup mieux pour moi de vivre dans ce 13e chapitre corinthien et de posséder brûlant dans mon âme, comme une flamme inextinguible, cet amour dont parle Paul, afin que je puisse enseigner les autres et les gagner pour le ciel. Un homme peut avoir une étonnante mesure de connaissance, sonder les mystères de la Bible, et cependant être froid comme un glaçon, il étincelle alors comme la neige au soleil. Vous avez été parfois étonné de ce que certains pasteurs doués d'une puissance attractive, ayant une merveilleuse facilité de parole et une grande intelligence, n'opéraient pas plus de conversion. Si vous en découvriez la vraie cause, vous verriez que leurs discours ne sont pas imprégnés d'amour divin, de pur amour. Vous pouvez prêcher comme un ange, mais sans l'amour, cela ne sert de rien. Un homme peut donner tout son bien pour la nourriture des pauvres, être très charitable et même distribuer tout ce qu'il a, que rien de ce qu'il a fait ne sera agréé de Dieu, si l'amour n'a inspiré son sacrifice. S'il offre son corps pour être brûlé sans avoir la charité, cela ne lui sert de rien. On peut aller au bûcher pour ses principes, pour ce qu'on croit, mais si l'amour de Dieu ne détermine pas une action, le martyre même ne sera pas acceptable. Les merveilleux effets de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4-7 « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Ce sont là les fruits de l'amour, qu'il n'est pas aisé de détruire, celui qui ne possède pas cet amour en son cœur est très facilement offensé. Peut-être si quelques membres de son église ne le traitent pas convenablement ou ne le saluent pas dans la rue, il s'irritera. L'amour supporte tout, et quand nous l'avons, ces petites misères ne nous séparent pas du peuple de Dieu, elles ne sont que la poussière qui s'attache à une balance. Les froides manières des hypocrites formalistes ne peuvent éteindre mon amour pour le Seigneur, et s'il brûle sur l'autel de nos cœurs, nous n'irons pas chercher à trouver les autres en faute, ni à critiquer ce qu'ils ont fait. Trouver en faute. L'amour rejette le mal, mais ne s'en réjouit pas, il peut manquer de patience à l'égard du péché, mais non à l'égard du pécheur. L'habitude de condamner constamment les autres cause un très grand dommage à notre vie spirituelle, c'est la disposition la plus avilissante et la moins digne. La meilleure de nos œuvres pourrait toujours être mieux faite. Je n'ai jamais rien fait en ma vie, quand j'ai prêché par exemple, sans être convaincu que j'aurais pu mieux réussir et sans me le reprocher souvent à moi-même. Mais nous asseoir pour trouver des défauts chez les autres, quand nous ne faisons rien nous-mêmes, quand nous ne levons pas seulement la main pour sauver une seule personne, n'est-ce pas une mauvaise chose, contraire à l'amour saint, patient et divin? L'amour est indulgent, c'est pourquoi chassons de nos cœurs et de l'Église l'esprit de critique et de jugement, vivons comme devant répondre à Dieu chacun pour notre compte, et non pour tout ce qu'en viendra le dernier jour. L'amour est patient, il est plein de bonté, il s'oublie et ne s'attache pas à lui-même. La femme qui apporta son vase d'albâtre à Jésus ne pensait nullement à elle, j'en suis sûre, elle comprenait à peine ce qu'elle faisait. Son amour pour le maître était son unique mobile, elle oublia ceux qui l'entouraient, brisa le vase et remplit la maison de parfums. En mémoire d'elle, ce qu'elle a fait a traversé 18 siècles et le parfum du vase est ici et dans le monde encore aujourd'hui. Il valait à peu près 250 francs, somme assez forte alors pour une pauvre femme. Judas vendit son maître, pour moins de 100 francs cette femme donnait tout à Jésus et ne se préoccupait que de lui, sans s'inquiéter de ce qu'on pourrait penser d'elle. Ainsi, lorsque nous agissons en regardant simplement à la gloire du Seigneur, sans rechercher les fautes des autres, et en faisant tout sous l'impulsion de l'amour, nos œuvres pour Dieu parlent, le monde reconnaît que nous vivons avec Jésus et que son amour glorieux est répandu dans nos cœurs. Cet amour pour Christ, il nous le faut pour aimer sa parole et son Église, nous vivons alors dans un esprit de charité et nous ne cherchons pas à médire des autres et à leur faire ainsi du mal. Après l'amour, qu'y a-t-il ? Après l'amour vient la paix. Un grand nombre essaie de faire leur paix, tandis qu'elle est déjà faite. Dieu ne nous a pas laissé ce travail à accomplir, nous n'avons qu'à l'accepter, telle est l'unique condition. Au lieu de nous tourmenter pour la produire, cessons tout effort et entrons paisiblement en elle. Si je découvre un homme dans une cave, qui se plaint d'être dans le froid et l'humidité, je lui dis, « Mon ami, sors de là. » En haut, tu trouveras un chaud soleil, une belle journée de printemps rayonnante de lumière, monte et jouisant. Il répondra peut-être, « Oh, non, monsieur. J'essaie pour voir si je puis produire de la lumière ici et je travaille à me réchauffer. » Le voilà qui continue à faire des efforts et cela pourra bien durer toute une semaine. Mon lecteur sourit, mais c'est en reconnaissant son portrait. Peut-être, car chaque jour j'en rencontre qui s'évertue à se donner la paix et des sentiments de joie. La paix est une condition dans laquelle nous entrons, c'est un état, et au lieu de faire notre possible pour la créer, croyons la parole qui nous déclare qu'elle a été faite, déjà par le sang de la croix. Christ l'a accomplie, et son désir est que nous entrions en elle. La seule chose qui puisse y mettre obstacle, c'est le péché. Psaume 149 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Esaïe 48, 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Esaïe 57, 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Les méchants sont semblables à la mer agitée, qui ne peut rester en repos, et qui jette de l'écume et de la fange sans cesser. Mais la paix de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ, la paix qui vient de la connaissance du pardon des péchés, est semblable à un roc, les flots s'y brisent, s'élève et passe outre tandis que le roc demeure. Nous ne saurions rencontrer la paix sur le terrain de notre excellence naturelle, elle nous vient du dehors et elle entre en nous. Acte 16, 33, il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Jésus est donc l'auteur de la paix, il procure la paix, son évangile est un évangile de paix. Luc 2, 10-11 Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Jésus nous apporte la paix. Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que cette parole est vraie. Avez-vous des afflictions, des inquiétudes, des chagrins? Souvenez-vous que c'est là notre lot sur cette terre? Paul a eu des tribulations et d'autres des épreuves, en serions-nous exempt nous-mêmes? Malgré cela, la paix règne au-dedans de nous inaltérables. Si la douleur est notre portion, la paix est notre héritage. Jésus nous la donne. La différence est grande entre sa paix et la nôtre, celle-ci peut être troublée, mais la sienne jamais. Telle est la paix qu'il nous a laissée, rien ne peut ébranler ceux qui se confient en Christ. Pas aisément ébranlé. Psaume 119, 65, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Dit le psalmiste. Ce qui assure cette paix, c'est l'étude de la parole de Dieu. Les chrétiens qui sont bien affermis sur la parole la possèdent en grande mesure, tandis que ceux qui étudient leur Bible et qui la connaissent imparfaitement sont facilement désarçonnés quand une légère affliction ou une petite persécution arrive, à la moindre opposition, leur tranquillité disparaît. Je suis étonné en voyant comme il faut peu de choses pour détruire la paix d'un chrétien. Une médisance peut suffire, mais si cette paix est celle de Dieu même, le monde ne saurait nous l'ôter. Il ne peut la donner et ne peut la ravir. Sa source est au-dessus de la terre. Elle provient de Christ et c'est une grande paix. Il a dit, Matthieu 11, « Si heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Si maintenant vous trouvez un chrétien bien enseigné par sa Bible, qui la remplit de marques et qui s'en nourrit chaque jour, la méditant avec prière, vous verrez qu'il n'est pas facilement ébranlé. Ceux qui font ainsi croient ses travails. Mais ceux qui n'ouvrent pas le saint livre ou qui ne l'étudient pas sont vite troublés, ils passent des moments difficiles et s'en étonnent. Ils vous diront que le christianisme n'est pas tel qu'on leur avait dit, ni ce qu'ils attendaient. Le mal vient de ceux qui n'ont pas médité la parole comme Dieu leur donne. S'ils l'avaient étudiée, leur âme serait dans une toute autre condition et ils n'auraient pas erré dans le monde se nourrissant de carouges comme lui. Ces pauvres âmes affamées succombant de faiblesse et des failles, elles sont aisément scandalisées et ébranlées. Je rencontrai un jour un homme qui me dit que son âme ne s'était nourrie de rien depuis 40 ans. Ah ! Lui dis-je, c'est particulièrement dur pour une âme de ne rien manger du tout. Cet homme est semblable à des milliers de milliers d'autres pauvres âmes qui ne se nourrissent de rien. Nous soignons très bien le corps que nous habitons pour si peu de temps et qu'il faudra si tôt laisser. Nous lui donnons à manger trois fois par jour, nous l'habillons, nous le garantissons alors qu'il s'approche d'un moment à l'autre de la tombe où il sera dévoré par les vers, tandis que nous laissons s'amaigrir et s'affamer l'homme intérieur qui marche vers une vie éternelle. 12 paroles. Nous lisons ces mots. Nombre 16, 23-26 L'Éternel parla à Moïse, et dit parle à l'assemblée, et dit retirez-vous de toute part loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. Moïse se leva, et alla vers Datan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée, et dit éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ce sont là, je le crois, les paroles les plus douces de l'Ancien Testament. Il y a bien des années que je les ai marquées dans ma Bible et je les ai souvent relues. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Les Juifs en entrant dans une maison la saluaient en disant « La paix soit sur cette maison ». Et quand ils sortaient, l'autre leur disait « Allez en paix ». Jésus a dit encore « Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ces paroles sont un précieux héritage pour tous ses disciples. Hommes, femmes et enfants peuvent y avoir parce qu'ils croient en Christ, il leur est donné et il leur appartient pour jamais. Voici le dessein de Dieu et sa promesse « Je vous donne ma paix ». Je vous la donne et je ne vous la retirerai pas, je vais vous la laisser. Quand un homme fait son testament et lègue ses propriétés, il peut se trouver des avocats assez rusés pour s'emparer de ce testament et l'annuler, une cour de justice et des jurés pour l'anéantir, et alors l'héritage appartient à d'autres. Mais le testament de Christ, nul ne peut le détruire, ni homme, ni démon. Il nous a promis sa paix et des milliers rendent ce témoignage, j'ai une part en son héritage. J'ai sa paix, je suis venu à lui et je l'ai reçue. Je suis allé à lui, dans mes ténèbres, dans mes troubles et mes angoisses, je traversais alors un épais nuage de souffrance, il m'a dit paix. Sois tranquille. Et dès cette heure la paix a régné dans mon âme. Des milliers ont joui de cette précieuse promesse après avoir accepté cette invitation de Jésus. Matthieu 10, 28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ils ont trouvé le repos dès qu'ils sont venus, car c'est Jésus qui crée le repos et la paix, et nulle puissance ne saurait annuler son testament. L'incrédulité peut mettre ce privilège en question, mais Christ se lève pour exécuter sa propre volonté, dès lors l'homme contesterait en vain. Les impies et les sceptiques peuvent nous dire que l'Évangile n'est qu'un mythe sans réalité, mais la glorieuse nouvelle est répétée à tous pays sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Les pauvres, les malheureux et les affligés y ont part. Ainsi, lecteur, vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps pour avoir cette paix. Entrez en elle aujourd'hui même. Ne vous efforcez plus de la produire, vous ne le pouvez, et c'est là une fatale erreur. Elle a été déjà faite par Christ et vous a été annoncée. Déclaration de paix. Pendant que la France était en guerre avec l'Angleterre, un baleinier français était parti pour un voyage de long cours. À son retour, l'eau vint à manquer et l'équipage se voyant à proximité d'un port anglais, craignait d'être pris captif s'il abordait pour s'approvisionner. On aperçut leur signal de détresse et on leur répondit de ne rien redouter, que la guerre était terminée et que la paix était faite. Mais les matelots avaient grand-peine à le croire et n'osaient s'approcher malgré leur disette. Ils se décidèrent enfin à entrer dans le port et à perdre leur cargaison et leur liberté plutôt que de mourir de soif sur la mer. Mais en débarquant, ils furent convaincus qu'en effet la paix était signée et que ce qu'on leur avait dit était vrai. C'est ainsi que bien des gens ne croient pas à la bonne nouvelle de la paix. Christ sur la croix a satisfait les exigences de la loi qui nous condamnait vous et moi et l'a accompli. Il a fait la paix et il veut que nous en jouissions et que nous y croyions. Qu'est-ce qui peut nous en empêcher? Nous n'avons qu'à entrer dans cette bénédiction dès maintenant pour avoir une paix parfaite. Voici la promesse. Esaïe 26, 3-4 à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Tant que nous n'avons pensé qu'à notre cher moi, nous n'avons jamais eu de paix, plusieurs s'occupent plus d'eux-mêmes que du reste du monde. C'est le moi le matin, le moi à midi, le moi le soir, le moi quand ils veillent, quand ils vont se livrer au sommeil, ils regardent toujours à eux-mêmes au lieu de regarder à Jésus. La foi porte notre regard hors de nous, elle n'a pas les yeux tournés en dedans, mais en dehors. Ce n'est ni ce que je pense, ni ce que je sens, ni ce que j'ai fait, mais ce que Christ était, ce qu'il a fait qui importe. Alors nous pouvons nous confier en celui qui est notre force, une force qui ne défaille jamais. Après sa résurrection, il dit par trois fois à ses disciples, Jean 20, 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit la paix soit avec vous, point d'exclamation. Jean 20, 26, huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Son sang donne la paix à nos consciences et son amour à nos cœurs. Souvenez-vous donc que l'amour est une puissance et la paix aussi. Mais je veux maintenant appeler votre attention sur un autre fruit du Saint-Esprit qui est encore une puissance, la grâce de la joie. C'est le privilège de chaque croyant de marcher dans la lumière et de posséder une paix qui jaillit sans cesse quand il est occupé à l'œuvre de son Dieu. Son privilège est aussi d'être rempli de la joie de l'Éternel. Quand Philippe prêcha à Samarie, il y eut une grande joie dans la ville. Pourquoi? Parce que les habitants avaient ajouté foi à la bonne nouvelle, la joie en croyant, tel est l'ordre divin. Quand le Seigneur envoya les 70 pour prêcher le salut, Ils obtinrent des succès et revinrent remplis de joie parce que les démons leur étaient assujettis. Jésus part les reprendre en leur disant. Luc 10, 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ils avaient donc un sujet de se réjouir et ceci fortifie notre assurance. Dieu nous donne un bon motif de joie, car il ne veut pas que nous n'en ayons aucun. Que penseriez-vous d'une personne qui paraîtrait très joyeuse et qui ne pourrait vous en dire le motif? Supposez que je rencontre quelqu'un dans la rue qui me prenne les deux mains d'un air heureux et qui me dise « Béni soit le Seigneur. Je suis rempli de joie. Et qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Mais je n'en sais rien. Vous ne le savez pas? Non, mais je suis si heureux que je ne sais si je pourrais le supporter. » Ne trouverez-vous pas cette personne déraisonnable? Il en est qui voudraient sentir qu'ils sont convertis avant de l'être et faire des expériences chrétiennes. Ils désirent avoir la joie du Seigneur avant d'avoir reçu Jésus-Christ. Mais tel n'est pas l'ordre indiqué par l'Évangile. Le Sauveur apporte la joie dans une âme quand il y entre, elle ne peut la posséder sans lui, car il en est l'auteur, et c'est en lui que nous trouvons cette grâce. La joie n'est pas égoïste. Il existe trois genres de joie. D'abord la joie du salut. Après l'avoir goûtée, j'ai cru qu'elle était la plus délicieuse que j'eusse jamais éprouvée et que je puisse éprouver jamais. Plus tard, j'ai trouvé que la joie de sauver les autres était encore plus grande. Oh ! Quel précieux privilège lorsque Dieu se sert de nous pour gagner une âme à Christ ! Quel ravissement nous avons lorsque nous voyons une personne délivrée de ses liens par le moyen d'un acte ou d'une parole de notre part, c'est le plus grand honneur que Dieu puisse nous faire que de condescendre à nous rendre ouvriers avec lui. Saint Jean dit qu'il n'a pas de plus grande joie que de voir ses disciples marcher dans la vérité. 3 Jean 1, 4 Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.